Bonjour à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 11 juillet 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, à la surprise de tout le monde, les autorités ont levé la suspension des activités politiques. Au Soudan, selon l'OSCR, les entraves à l'aide humanitaire aggravent la crise dans ce pays déchiré par la guerre. Ici aux États-Unis, l'acteur George Clooney appelle le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle de novembre. Dans notre partie magazine, la classe politique camerounaise est divisée après la prorogation pour un an du mandat des députés.
Si les mêmes conseillers municipaux doivent voter deux fois au niveau des régionales, nous n'aurons qu'une confiscation de notre démocratie pendant 10 ans et aucune alternance.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, après 3 mois de suspension des activités des partis politiques et toute activité à caractère politique, les autorités de la transition viennent à la surprise générale de lever cette mesure de suspension. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. On se souvient que c'est le 10 avril dernier, à 72 heures de l'ouverture des travaux du dialogue intermalien, que le gouvernement avait pris cette décision. Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette mesure visait justement à permettre, entre autres, la bonne tenue de ce dialogue intermalien sur toute l'étendue du territoire national. Au moment où cette mesure de suspension est levée, 11 acteurs politiques arrêtés le jeudi 20 juin dernier au domicile de Moustapha Dikko, un cadre du parti Aduma PSG, sont en prison pour tentative de déstabilisation, atteinte à la sûreté et trouble à l'ordre public. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Toujours au Mali, l'aéroport international de Bamako connaît une pénurie de carburant qui entraîne des annulations et des perturbations de vols, selon différents acteurs du transport aérien. Jacques Aristide.
L'agence malienne de l'aviation civile a demandé à l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique de diffuser aux usagers de l'espace aérien un avis sur la non-disponibilité du carburant Jet A1 à l'aéroport international Modibo Keïta depuis mardi et jusqu'au lundi 15 juillet. Le Jet A1 est un carburant de type kérosène d'usage répandu dans l'aviation civile. La compagnie domestique Sky Mali a indiqué avoir annulé hier ses vols Bamako-Kaï-Bamako et Bamako-Tombouctou-Bamako. Elle ne s'est pas prononcée sur ses vols prévus en fin de semaine. Turkish Airlines a annulé différents vols. Ethiopian Airlines a avancé dans la matinée d'hier son vol Dakar-Bamako. Les deux compagnies invoquent une pénurie ou une indisponibilité de carburant à Bamako dans des messages d'information. Aucune information officielle n'a été communiquée sur les causes de cette pénurie. Le Mali, dirigé depuis 2020 par une junte, est plongé depuis 2012 dans une crise sécuritaire, politique et économique qui affecte sérieusement les approvisionnements.
En Guinée, le chef d'un des mouvements citoyens des plus actifs contre la junte ainsi qu'un autre responsable ont été arrêtés mardi soir. Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et Mamadou Biloba ont été arrêtés par un groupe de militaires encajolés et sortant en tenue civile lourdement armée, a indiqué le Front national pour la défense de la Constitution, mouvement pour la démocratie qui parle de kidnapping en contradiction avec toutes les procédures d'interpellation. La justice nigérienne a accordé la liberté provisoire au directeur du quotidien L'Enquêteur, Idrissa Soumana Maïga, emprisonné depuis fin avril pour atteinte à la défense nationale. Idrissa Soumana Maïga avait été interpellé par la police le 25 avril et placé sous mandat de dépôt 4 jours plus tard à la prison de Niamey par un juge d'instruction pour atteinte à la défense nationale. D'après son avocat, Maître Ousmane Ben, l'inculpé préoccupations de son client était liée à un article paru le 25 avril dans l'Enquêteur critiquant les installations des Russes au Niger. Le rapport des experts mandatés par l'ONU est risible et sans fondement, a affirmé hier le porte-parole adjoint de l'armée ougandaise. Ce rapport affirme que des membres du service de renseignement d'Ouganda ont apporté un soutien actif au M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Entre 70% et 80% des étrangers qui se trouvent en Libye sont en situation irrégulière, a indiqué hier le ministre de l'Intérieur à une semaine de la tenue d'un forum international sur la migration en Méditerranée. Le point avec Michel Joseph.
Il y a aujourd'hui en Libye près de 2,5 millions d'étrangers, dont 70 à 80% sont entrés de manière illégale, a déclaré lors d'une conférence de presse Imad Trabelsi, le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli. Avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations et son programme de retour humanitaire volontaire, les autorités libyennes ont fait rapatrier 6 000 migrants depuis le début de l'année et 10 000 en 2023, a indiqué le ministre. La Libye, à quelques 300 km des côtes italiennes, et la Tunisie sont les principaux pays de départ pour des milliers de migrants d'origine subsaharienne désireux de rejoindre l'Europe par la mer au péril de leur vie. Mais avec les efforts croissants de l'Union européenne pour endiguer les arrivées de migrants, ceux-ci se retrouvent souvent bloqués en Libye. Le 17 juillet, Tripoli va accueillir un forum sur la migration transméditerranéenne qui vise à élaborer une nouvelle stratégie pour des projets de développement dans les pays de départ des migrants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'acteur George Clooney, fervent démocrate impliqué dans les levées de fonds pour le parti, a appelé mercredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle de novembre. C'est une voix de plus parmi les célébrités qui expriment leurs doutes sur l'état de santé du président. Mouamadou Omfa.
Les ténors démocrates, les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants et les autres candidats qui risquent de perdre en novembre doivent demander à ce président de se retirer volontairement, a écrit l'acteur George Clooney dans une tribune publiée par le New York Times et intitulée « J'aime Joe Biden, mais il nous faut un autre candidat ». Nous ne gagnerons pas en novembre avec ce président, a-t-il asséné. Rob Reiner, réalisateur de la comédie romantique culte Quand Harry rencontre Sally, a déclaré sur X que George Clooney avait dit tout haut ce que beaucoup pensaient déjà. Nous aimons et respectons Biden, mais nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune. L'acteur Michael Douglas s'est dit mercredi très très inquiet dans un talk show, ajoutant que les arguments de Clooney étaient valides. Plusieurs figures d'Hollywood, bastions démocrates et contributeurs majeurs aux campagnes avaient déjà fait part de leur inquiétude quant à la capacité de Joe Biden à remporter l'élection ou ont emboîté le pas à George Clooney.
Par ailleurs, Joe Biden, qui joue désormais sa survie politique à chaque apparition publique, fera face jeudi à un test redoutable pour sa candidature à la présidentielle en donnant une conférence de presse. Et ce sera une conférence de presse de grand garçon, promet la Maison-Blanche, sans plus de détails sur la durée ou le déroulement. Le démocrate de 81 ans n'a pas réussi depuis ce duel télévisé calamiteux à apaiser les doutes qui rongent son parti. Les pays de l'OTAN ont multiplié mercredi les gages d'un soutien renforcé à l'Ukraine au premier jour d'un sommet historique marqué par les incertitudes politiques, notamment aux États-Unis. Plusieurs pays de l'OTAN ont annoncé avoir commencé à transférer des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Après avoir fêté en grande pompe la veille le 75e anniversaire de l'Alliance militaire occidentale, les leaders se sont retrouvés au sein du Conseil de l'Atlantique Nord, l'organe politique suprême de l'OTAN, avant de rejoindre la Maison-Blanche pour un dîner de gala. Lors de cet événement, Joe Biden a comparé l'Alliance Atlantique au quartier de son enfance quand un voisin avait besoin d'aide, vous lui donniez un coup de main. L'armée chinoise procède cette semaine à des exercices militaires avec les forces biélorusses à la frontière de la Pologne et donc de l'OTAN. Un signal adressé à cette organisation en plein sommet à Washington et dans un contexte de tension sino-américaine. Ces manœuvres présentées comme antiterroristes sont surveillées de près par les militaires polonais car le Bélarus est un très proche allié de la Russie qui a envahi l'Ukraine, soutenue militairement par l'Alliance Atlantique. L'armée israélienne a appelé mercredi tous les habitants à évacuer la ville de Gaza, la principale du territoire palestinien assiégé, où ses soldats sont engagés dans une opération majeure contre le mouvement islamiste Hamas. Au dixième mois de cette guerre dévastatrice et après des mois d'efforts restés vains, de nouvelles discussions sont prévues au Qatar pour tenter d'avancer vers un cessez-le-feu et une libération d'otages enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Pénurie de carburant à l'aéroport international de Bamako. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique a diffusé un avis sur la non-disponibilité du kérosène Jet A1 à l'aéroport Modibo Keïta jusqu'au 15 juillet minuit. Le Mali demande aux compagnies aériennes de se ravitailler ailleurs. Les compagnies aériennes turques et éthiopiennes ont annulé certains vols. Sky Mali a aussi annulé 2 vols internes. Au Burkina Faso, Orzone a obtenu un financement de 105 millions de dollars pour la mine d'or Bomboré. Coris Bank a fourni 58 millions et le groupe West African Yoco Resources Corporation 47 millions. Il s'agit d'ajouter une usine de traitement d'une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes d'ici 2025. Selon la compagnie, la production annuelle d'or devrait augmenter de 50% l'année suivante. L'Agence américaine de financement du développement international a approuvé un prêt de 99 millions de dollars au producteur d'électricité Globelec Africa pour la construction d'un parc éolien à Namacha au Mozambique. Le projet augmentera la fourniture d'électricité propre à faible coût au plan national et régional, a indiqué la DFC. Le projet de 268 millions de dollars aura une capacité de 120 mégawatts.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
L'Angleterre rejoint l'Espagne en finale de l'Euro 2024.
Oui, l'Angleterre s'est qualifiée pour la finale de l'Euro 2024 qu'elle disputera contre l'Espagne dimanche à Berlin en battant les Pays-Bas 2-1 en demi-finale hier à Dortmund. Xavi Simons avait ouvert le score pour les Néerlandais dès la 7e minute de jeu, mais Harry Kane a égalisé sur pénalty à la 18e, puis Ollie Watkins a marqué le but de la qualification en fin de match. À la 90e, l'Angleterre jouera sa 2e finale de l'Euro d'affilée après son échec au tir au but contre l'Italie à Wembley en 2021.
Thomas Müller prend sa retraite internationale.
C'est ce qu'indique le journal allemand Bild. Il n'y a pas eu de confirmation officielle de la part de Thomas Müller ou de la Fédération allemande de football, mais le joueur de 34 ans avait déjà laissé entendre, peu après l'élimination en quart de finale de l'Euro 2024, qu'il pourrait s'agir de son dernier match pour son pays. Müller a disputé 131 matchs internationaux en plus de 14 ans et occupe actuellement la 3e place du classement des joueurs les plus capés de la Mannschaft, derrière Lothar Matthäus et Miroslav Klose. Il a marqué 45 buts et délivré 42 passes décisives en équipe nationale. Son plus grand succès avec la sélection a été de remporter la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où il a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives.
Parlons à présent d'athlétisme et de dopage. Lawrence Cherono, suspendu pour 7 ans.
Le marathonien kényan, vainqueur des marathons de Boston et de Chicago en 2019, a été suspendu 7 ans pour dopage. L'annonce a été faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Lawrence Cherono, 35 ans, 12e meilleur marathonien de l'histoire avec un record de 2h03min4s en 2020, avait été contrôlé positif à la trimétazidine, un médicament essentiellement utilisé pour prévenir les angines de protéines, lors d'un prélèvement effectué hors compétition le 23 mai 2022. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a suspendu Lawrence Cherono pour présence d'une substance interdite et manipulation ou tentative de manipulation dans le contrôle antidopage, a indiqué le communiqué de l'instance. Le Kenya et ses spécialistes des courses d'endurance sont à l'origine de très nombreux cas de dopage ces dernières années. L'unité d'intégrité de l'athlétisme, organisme indépendant chargé notamment des tests et enquêtes depuis 2017, a dénoncé en avril 2023 un dopage à grande échelle dans le pays.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, la classe politique est divisée après la prorogation pour un an du mandat des députés. L'Assemblée nationale, majoritairement acquise au parti au pouvoir, le RDPC, a renvoyé les élections législatives en mars 2026. Une situation qui pourrait porter préjudice à certains candidats de l'opposition. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Les acteurs de la société civile n'approuvent pas la prolongation du mandat des députés. Hilaire Kamga, mandataire de l'offre Orange, un mouvement de la société civile qui prône une transition politique au Cameroun.
La houblardise électorale permanente, puisqu'il s'agit de distribuer les cartes dans le sens de pouvoir fausser le jeu, parce que les raisons invoquées pour pouvoir reporter n'ont aucune, ne sont pas défendables au moment où le Cameroun a peut prétendre avoir assez d'argent au regard d'un certain nombre d'accords de financement que le Cameroun a pu obtenir. Il suffisait seulement d'arbitrer sur l'affectation des financements disponibles. On était en droit de pouvoir avoir des économies qui nous permettraient d'organiser toutes les élections.
Les élections législatives, municipales, régionales et la présidentielle étaient prévues en 2025. Le président de l'Assemblée nationale a été favorable à la prorogation du mandat des députés et soutient, je cite, ces quatre consultations majeures auraient installé le Cameroun dans un cycle électoral permanent tout au long de la même année avec des implications sur le fonctionnement habituel du pays sans compter le poids des charges financières. Fin de citation. Un point de vue que ne partage pas le député Joshua Yossi, président du Social Democratic Front, un parti de l'opposition.
Quand nous avons reçu de la consultation du bureau de l'Assemblée nationale où je suis présent, je me suis abstenu de donner un avis favorable à cette prorogation-là. Nous sommes contre cette prorogation parce que c'est complètement contraire aux bonnes pratiques démocratiques.
Le SDF appelle à un jeu politique équitable et demande à cet effet le report des élections régionales. Je sois aussi président du SDF.
Les mêmes raisons que le président de la République a données pour les municipales et pour les législatives sont valables pour les régionales. Donc il ne peut pas se dérober de ce devoir de signal de craie pour repousser ces élections-là. Ce sont les conseils municipaux en majorité qui votent les conseils régionaux. Si les mêmes conseils municipaux doivent voter deux fois au niveau des régionales, nous n'aurons qu'une confiscation de notre démocratie pendant 10 ans et aucune alternance.
Au sein du RDPC, le parti au pouvoir, le report des législatives en mars 2026 a été acté de tous. David Manfo, député RDPC.
Ça peut faire un peu plus et puis on faisait mal à certains. Ça permet simplement de réajuster les stratégies pour chaque parti politique ou pour tous les acteurs de la chaîne. Et je suis habitué à ces prorogations-là et qui ont toujours certainement été faites quand les circonstances l'exigeaient.
La prorogation d'un an du mandat des députés sera préjudiciable au MRC, le parti de l'opposant Maurice Kamto qui n'a pas d'élus locaux, puisque la loi électorale prévoit que seules les formations politiques qui ont des élus locaux peuvent avoir un candidat à l'élection présidentielle. Pour le ministre chargé des relations avec les assemblées, le MRC s'est auto-exclu du jeu électoral en boycottant les élections locales de 2020. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, où deux opposants ont été interpellés hier, les inquiétudes se font ressentir dans la classe politique. Nathalie Barge a demandé à la présidente du parti FAN en visite à Washington comment est perçue la transition par une partie de la société civile et de la classe politique qui avait milité pour que la transition ne dépasse pas 2 ans.
Nous n'avons pas les mêmes lectures que les autorités de la transition. Le porte-parole du gouvernement a dit qu'une transition ne doit pas avoir une fin en soi, c'est la fin ne doit pas être inscrite dans le marbre, que ça dépend de ce qui se passe, des réalités du pays. Et donc nous n'avons pas de lisibilité en tant que politique, parce qu'aujourd'hui les politiques n'ont aucun droit de manifestation. Alors nous, politiques, nous n'avons pas de visibilité sur la fin de cette transition, il faut le dire.
Vous avez dit, Makale Camara, la Guinée n'aurait pas besoin d'emprunter au FMI ou à la Banque mondiale si nous avions une gestion vertueuse. Qu'en est-il des ressources naturelles en Guinée aujourd'hui ?
Je le dis, je le maintiens. La Guinée en Afrique de l'Ouest est l'un des pays les plus riches, sinon le pays le plus riche en ressources du sol et du sous-sol. Nous avons une pluviométrie abondante, nous avons plus de 6 millions de terres cultivables. Nous sommes riches en bauxite. Depuis les années 60, on est en train d'exploiter notre bauxite. Maintenant, nous venons d'ouvrir le Monemba, le plus grand chantier minier à faire. Et encore, nous sommes là à chercher de l'eau à la pompe. Les femmes ont encore la corvée d'eau, nous n'avons pas d'électricité tous les jours, nous n'avons pas les routes.
Et aujourd'hui, qu'en est-il des relations entre la Guinée et les États-Unis et la France surtout? Nous avons ce sentiment anti-France en Afrique de l'Ouest notamment avec ces régimes militaires. Qu'en est-il de la relation entre la Guinée et la France?
Je pense qu'il n'y a pas un sentiment anti-Occident ou un sentiment anti-France en Afrique. Ce que l'Afrique demande, c'est de changer la forme de relation que nous avons avec l'Occident. Cette exploitation qui ne s'arrête pas, les mines que nous avons, les richesses que nous avons, qui sont exploitées à notre détriment, nous voulons changer les conditions des termes d'échange. Cela étant dit, les rapports entre la France et la Guinée se portent très bien. Nous n'avons pas encore ce problème chez nous où on porte les pancartes pour s'invectiver. La France a toujours été le premier pays bailleur bilatéral avec la Guinée. Cela continue. La France est en train d'ouvrir un chantier de transformation de la bauxite en Guinée. Ça, c'est un nouveau marché. Donc, je pense que tout va bien. Tant qu'on se respecte, tant que ce sont des rapports gagnant-gagnant, je pense que les Africains n'ont pas à jeter l'opprobre sur l'Occident. Mais il faut que les termes, les conditions, les termes d'échange changent, disons.
Donc vous voulez dire qu'on est sur la bonne voie entre la Guinée et la France, par exemple, pour changer ces termes, ces conditions au niveau du business, au niveau des affaires?
En tout cas, on est en train de beaucoup essayer avec cette transition. Nous voyons que des choses sortent de terre, que les conditions changent quant à la négociation des conventions que nous signons actuellement.
C'était l'ancienne ministre des Affaires étrangères guinéenne, Makalé Camara. Un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique sera désigné lors de la 74e session du comité Afrique de l'agence onusienne qui se tiendra du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville, au Congo. Plusieurs candidats briguent le poste, parmi lesquels le Sénégalais Ibrahima Sosefal. Mohamedou Oumfa lui a demandé quelles seront ses priorités pendant les 5 ans de son mandat s'il devient le nouveau patron de l'OMS pour l'Afrique.
La première priorité pour moi, c'est d'intégrer la santé dans toutes les politiques sectorielles et renforcer les systèmes de santé afin que toutes les personnes puissent avoir accès à des soins de qualité. La deuxième priorité, c'est tout ce qui concerne la préparation et la réponse aux situations d'urgence, nombre de personnes qui ont besoin d'intervention humanitaire, mais aussi les risques d'épidémie et de pandémie toujours là. Et les pays doivent se préparer dans le cadre de la prévention et la réponse à ces épidémies. Et mon parcours me permet donc de pouvoir aider les pays à le faire. La troisième priorité, c'est d'accélérer donc la réduction des disparités en matière de santé et de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Aujourd'hui encore, 72% des décès de femmes qui accouchent, ça se passe en Afrique. Nous devons travailler à éliminer des maladies qui peuvent être éliminées dans certaines zones. Le paludisme peut être éliminé dans certaines zones. Beaucoup de maladies tropicales négligées peuvent être éliminées. Et nous devons investir plus pour le faire.
Il s'agit là d'un vaste programme qui nécessitera forcément beaucoup de moyens techniques et financiers, surtout financiers. Où trouverez-vous les moyens?
Il est extrêmement important de maximiser déjà les financements domestiques, les financements endogènes des pays et assurer une meilleure gouvernance, une meilleure transparence dans l'utilisation des ressources. Parce que si on augmente les ressources sans une gouvernance améliorée, quoi les vont demeurer. Nous avons besoin aussi d'une meilleure coordination et d'un meilleur alignement des financements internationaux. Nous avons beaucoup d'initiatives aujourd'hui. Le Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons Gavi, nous avons les fonds pandémie. Nous devons nous assurer que ces fonds sont bien coordonnés et de façon alignée aux priorités des pays, de telle sorte qu'on peut maximiser l'efficience.
L'OMS est parfois considérée comme une institution occidentale qui ne tient pas compte des réalités africaines, notamment de la médecine traditionnelle africaine qui reste très populaire et très intégrée, notamment dans les zones rurales. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui ont cette vision des choses?
C'était une réalité dans le passé, parce qu'il faut le rappeler, l'OMS a été créée dans un contexte colonial, de même que les Nations Unies. Donc les approches étaient plus des approches radicales, où des interventions étaient donc décidées et imposées par la population. Et ça a beaucoup changé depuis lors, parce que aujourd'hui, toutes nos approches d'intervention sont basées sur l'appropriation par les pays et par les communautés. Et aujourd'hui, les meilleurs experts, les meilleurs épidémiologues sont aujourd'hui en Afrique. Et parmi ces meilleurs experts, j'en ai beaucoup formé. Revenons sur la médecine traditionnelle. Donc c'est une priorité extrêmement importante pour l'OMS. En Inde, le directeur général de l'OMS a lancé un centre collaborateur de l'OMS pour la médecine traditionnelle. Et en Afrique, nous avons beaucoup de pays qui investissent dans la médecine traditionnelle, dans la recherche. J'en ai vu au Mali, où j'étais représentant de l'OMS, au Sénégal, en Tanzanie, au Nigeria, à Madagascar. Et c'est aujourd'hui l'occasion donc de renforcer la recherche, y compris pour la médecine traditionnelle.
Docteur Ibrahima Sosefal, directeur du programme mondial de l'OMS sur les maladies tropicales négligées. Il est candidat au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans l'Amérique et vous de ce vendredi 12 juillet 2024. Coup de projecteur sur le climat d'incertitude politique aux États-Unis. Les appels de plus en plus pressants, même au sein du Parti démocrate, pour que le président Joe Biden, à 81 ans, abandonne la course d'un second mandat en novembre face à son rival républicain Donald Trump. La prestation jugée calamiteuse du président Biden lors du récent débat télévisé a-t-elle amplifié les interrogations sur sa candidature à la prochaine présidentielle? Quelles en seront les retombées politiques tant pour les démocrates que pour les républicains? Et en Afrique, comment suivez-vous cette situation inédite? Rendez-vous ce vendredi à 19h05, temps universel.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre les émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero. À la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.